Excellencies.
Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, chers amis, j'ai l'honneur de déclarer ouverte cette première conférence des États parties à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Je vous souhaite à tous une chaleureuse bienvenue. Les disparitions forcées sont toujours une grande difficulté pour nous tous en matière des droits de l'homme. Des personnes disparaissent dans beaucoup de pays, l'État étant impliqué directement ou non. Dans le contexte de conflits internes, du crime organisé transnational, de crise humanitaire et de lutte contre l'extrémisme violent, nous constatons que cet ancien phénomène renaît et de nouveaux aspects du problème. Mais il y a également de nouveaux auteurs, des groupes militaires, paramilitaires, milices, gangs, groupes criminels organisés et autres acteurs non étatiques. Ce qui est très inquiétant, c'est que ces auteurs visent un public beaucoup plus large pour trouver des victimes. En plus des opposants politiques, ce sont des personnes vulnérables, quel que soit leur statut. Des civils sont capturés, détenus, retenus comme otages par différentes forces en présence. Les migrants sont très vulnérables aussi. La capture récente de zones assiégées ou détruites à l'est d'Alep par les forces pro-gouvernementales ont entraîné des violations brutales des droits de l'homme. Mon bureau a reçu des indications, à savoir que de nombreux résidents de l'est d'Alep auraient été capturés par des forces pro-gouvernementales et emmenés dans des endroits inconnus, ce qui pourrait revenir à des disparitions forcées. Il est clair que, bien que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ait trouvé ses racines dans les pratiques épouvantables qui avaient lieu dans les années 70 en Amérique latine pendant les dictatures et dans les années 80, mais c'est toujours très pertinent aujourd'hui. Les dispositions concernant les enquêtes, le non-refoulement, l'extradition, la détention au secret, les actions urgentes, enquêtes, montre bien que la Convention reste toujours un instrument novateur, qui se renouvelle toujours dans ce domaine. Le Comité sur les disparitions forcées, pendant ses 5 premières années d'existence, a mis en place une pratique très fiable pour orienter les États et protéger les victimes. Mais la Convention n'a pas attiré un nombre important de ratifications ou massifs qu'elle mérite. Avec simplement 54 États parties, elle n'a pas un soutien très large dont elle a pourtant besoin pour faire face aux objectifs de la prévention et de l'élimination des disparitions. Cela ne peut combler les espoirs, les attentes des familles comme les mères et les grands-mères de la place de Mai qui ont tellement combattu pour la Convention. Cette loi, c'est le fruit de leur souffrance, de leur détermination. Nous avons une responsabilité envers ces femmes. Excellence, aujourd'hui, rassemblées dans cette salle, nous avons les représentants des États qui ont prouvé leur engagement face à un des principes fondamentaux défendant la dignité humaine. Aucune personne ne doit être sujette à la disparition forcée. Personne ne doit être détenu au secret. Nous célébrons actuellement le 10e anniversaire de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et je vous demande à tous, État parties, de prendre des mesures afin d'atteindre la ratification universelle de cet instrument juridique essentiel. Dans vos groupes régionaux, dans le cadre d'assemblées bilatérales internationales, comme la présente conférence, je pense que vous avez la possibilité de réaliser cet objectif. Il faut le faire sans attendre. Excellence, l'objectif de la conférence d'aujourd'hui, c'est d'évaluer le comité et de voir s'il convient de transférer les fonctions de surveillance à une autre instance. Sans préjuger de vos constatations, je voudrais replacer ces discussions dans un contexte plus large. Chaque instance de traité fait partie d'un système et la situation dans laquelle se trouve ce système a des effets sur chacun des éléments qui le constituent. dans un contexte mondial très problématique, le système des instances de traité est plus utile que jamais. C'est une assemblée unique pour surveiller ce qui se passe dans le monde, pour donner des avis d'experts, pour promouvoir la justice, l'état de droit, le développement. Chaque État peut examiner ses propres performances, coordonner les entités qui régissent l'État, mettre en place un dialogue avec les institutions nationales et la société civile et donner lieu à des changements au niveau national. D'ailleurs, des personnes individuelles peuvent prendre la parole, demander justice à ce qui est fondamental. Ce système doit pouvoir s'acquitter de ses fonctions si l'on veut qu'il réagisse comme il convient aux difficultés du monde contemporain. En 2014, l'Assemblée générale a adopté la résolution 68-268 visant à renforcer les instances des traités. Et cette année, le secrétaire général a présenté son premier rapport faisant le bilan de la mise en œuvre de la résolution sur de la mise en œuvre de cette résolution avec des recommandations. Le processus de renforcement a aidé les instances de traité à améliorer leur travail, à être plus réactives et plus visibles. Il y a un programme mondial de capacité qui porte ses fruits, mais le système manque de ressources, manque cruellement de ressources et a besoin de réformes plus profondes. En 2020, dans 3 ans seulement, l'Assemblée générale entreprendra l'examen de une résolution renforçant les instances des traités. Après cette conférence, vous qui êtes créateur et propriétaire du système, je l'espère, vous saisirez l'occasion de prendre des décisions sur la base des recommandations du secrétaire général pour renforcer le système. J'ai engagé mon office afin qu'il appuie ce processus d'examen pour qu'il y ait un soutien constant, efficace pour les États et pour les populations où qu'elles se trouvent. Je vous souhaite plein succès dans vos délibérations.